Salut les sorciers! Aujourd'hui, on va faire chauffer nos méninges de serre d'aigle pour faire une petite Inception. On va parler littérature sorcière dans l'univers Harry Potter. Et attention, quand je dis ça, je ne parle pas de littérature moldue qui mettrait en scène des sorciers, hein, mais bien de ce à quoi pourraient ressembler des œuvres littéraires produites par des sorciers ou des sorcières dans l'univers du monde magique. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est aussi pour ça que vous nous aimez, je pense. Du coup, pour partir dans ce délire avec moi aujourd'hui, il y a Ipiotiminel
Hello!
et Marjolaine.
Salut! Évidemment que des
Deux
serres
serres
d'aigle.
d'aigle.
Bah oui, c'est ça, donc.
On parle littérature, on est une équipe de serres d'aigle. C'est
C'est pour ça
bizarre.
que j'ai bien parlé de nos méninges de serre d'aigle dans l'introduction, hein.
De toute façon, tu parles de livres, tu récupères l'équipe d'Aspic qui est en ce moment en pleine césure. Tu dis
C'est
elles
ça.
doivent s'ennuyer un peu, doivent en avoir, elles doivent, ça doit leur manquer de parler de livres, donc il faut les
C'est
ramener.
ça.
Exact. Bon, on va juste en tour de table vraiment très rapide pour commencer, voir peut-être ce qui, pour vous, dans la saga, dans les livres de la saga, transparaît de la littérature et peut-être plus largement de la culture sorcière. Il n'y a pas grand-chose.
C'est pas évident ça comme question, mais après, ouais, les livres qu'on connaît de manière canonique, il n'y a pas vraiment la littérature de fiction. On peut pas, il y a les contes de Beedle le Barde, mais bon, c'est un cas un peu spécial, une littérature pour enfants, quoi. Mais après, bon, les livres de Lockhart, hein, c'est pas censé être de la fiction, mais mais apparemment, ça a son public, donc j'imagine. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, ils ont tellement un univers un peu, ouais, déjà de fantasy, même si pour eux, c'est pas de la fantasy, c'est leur monde réel, mais que par rapport à nous, imaginer la littérature de fiction, c'est compliqué. Enfin,
Mais
on se dit, ils ont juste à raconter voilà, des trucs à la Lockhart, de l'autofiction, et ça suffit à faire des romans
c'est un petit
pleins
début, ouais.
d'aventures, quoi.
Il y
Mais
a de la
c'est vrai
bande
que
des.
c'est un truc qui m'avait marqué en lisant les bouquins, et notamment toutes les scènes où Hermione parle de son amour pour les livres et de tous les trucs qu'elle lit. C'est qu'à chaque fois qu'elle mentionnait des bouquins qu'elle lisait pour le plaisir, alors que enfin elle est jeune, quoi, c'était toujours de la non-fiction. Donc c'est, bah, ça va être l'histoire de Poudlard ou des livres, voilà, sur l'histoire de la magie, sur des choses comme ça. Et qu'il n'y avait pas de mention de littérature qu'elle lisait, enfin voilà, de littérature sorcière, mais vraiment d'œuvres de fiction. Alors que, d'autant plus que Hermione, elle a grandi dans le monde moldu, donc elle a été exposée, et surtout, enfin, elle est déjà lectrice en arrivant à Poudlard, donc elle a été exposée à la littérature de fiction moldue. Et donc c'est un truc qui m'avait, enfin, je sais que je m'interrogeais dessus, gamine, en me disant, mais Hermione, il dit toujours qu'elle aime lire, mais les bouquins qu'elle dit qu'elle lit, ça parle d'être des trucs que, enfin, moi, ado,
Mais
ouais.
je pense que ça doit, ouais, mais ça doit venir un peu du caractère d'Hermione. J'ai l'impression qu'elle, c'est du genre à être un peu snob, quoi, à se dire non, bah.
Ouais, mais
Oui.
on pourrait s'attendre à ce qu'elle ramène même de la littérature moldue à Poudlard, à
Oui.
la limite, même
Ou
si c'est
qu'elle
que des
parle.
classiques.
Oui,
Mais
elle pourrait parler de ses lectures. Quand elle rentre chez ses parents pour les grandes vacances, bon, elle dit bien qu'elle va au ski, par exemple. Eh ben, il y a aucun moment où elle mentionne les bouquins qu'elle pourrait lire. Alors que j'imagine bien que, enfin, on s'imagine qu'elle vient d'une famille aisée, etc. Qu'elle lit Jane Austen, qu'elle lit Shakespeare, qu'elle lit Virginia Woolf. Et c'est vrai que du coup, c'est un truc qui est complètement absent. Par contre, on a quand même en littérature de fiction, on a les BD de Ron,
Ouais,
Martin Higgs, le Moldu Fou.
c'est ce que j'allais dire. Paradoxalement,
C'est les Moldus qui sont utilisés comme personnages.
et paradoxalement, celui par qui finalement arrive le sujet de la littérature dans le trio, c'est Ron, quoi. C'est quand même
Ouais.
assez surprenant
Bah oui.
parce que c'est lui qui
Connais les contes.
c'est par lui qu'on connaît Martin Meeks, c'est lui qui explique aux deux autres ce que sont les contes de Beedle le Barde.
Bah, comme souvent, en fait, dans la mesure où, enfin, c'est souvent Ron, en fait, qui introduit beaucoup de concepts du monde magique. Mais c'est vrai que ce que je trouve assez intéressant avec Martin Wiggs, c'est que bah, c'est un moldu, quoi. Donc, en fait, y a un peu presque une inversion. Mmh. Où, bah,
l'exotisme.
Nous, en tant que moldu, c'est ça. C'est, on va lire des histoires, enfin pas que, mais il va y avoir beaucoup. Enfin, voilà, toute la littérature de fantasy, d'imaginaire, on va imaginer bah, des sorciers, des vampires, des dragons, des loups-garous. Enfin voilà, des trucs imaginaires. Et pour en recherche de distraction. Et les sorciers, eux, ils vont imaginer des histoires de moldus. Et du coup, je trouve ça assez drôle, en fait, cette
pour
inversion.
Pour eux, la fantaisie, ouais. Parce ouais. qu'ils doivent avoir aussi, je pense, la version littérature blanche, pour eux, c'est des histoires de sorciers.
Oui.
Et la littérature de l'imaginaire, pour eux, c'est des histoires de moldus. Parce que même si les moldus, bon, bah, ils existent, ils savent qu'ils existent. Mais j'imagine que ça doit stimuler l'imaginaire, surtout peut-être d'auteurs sans pur ou d'auteurs qui ont grandi que dans le monde des sorciers. Ils doivent développer un espèce d'imaginaire autour des moldus.
Du coup, en gros, ça voudrait dire que le truc le plus haletant et le plus original pour un sorcier sans pur, c'est genre de lire le quotidien d'un comptable moldu. vraiment d'un truc qui n'existe pas dans le monde magique, qui est hyper relou.
Est-ce qu'on est réellement quand même autant... est-ce qu'on a un effet miroir tel ? Je ne suis pas sûre quand même.
Non, je ne pense pas.
Mais
parce qu'il y a quand, même un sentiment de supériorité aussi oui. vis-à-vis des moldus. Oui. Et puis, bon, bah, mine de rien, ça réduit aussi leur lectorat s'ils font un truc. Parce qu'à mon avis, les nés moldus, bon, se replonger dans une histoire où en plus ils se rendent compte que c'est une espèce d'interprétation un peu fantaisiste de qu'est-ce que ça peut être. Le quotidien des moldus, je suis pas sûre que ça les intéresse plus que ça.
Ça dépend, je pense que selon la façon dont ça va être, ça peut être hyper drôle, de la même manière que quand tu vois les sorciers de sang pur qui ont pas l'habitude de fréquenter des moldus et qui essayent de se faire passer pour des moldus oui. avec leur tenue vestimentaire, c'est quand même à mourir de rire. Et donc, je pense que en fonction de comment c'est amené, pour des sorciers qui sont nés moldus ou même sans être nés moldus, qui ont une famille moldue, des proches moldus, ça peut être un mourir de rire, quoi, de voir le décalage entre ce que les sorciers qui connaissent pas trop les moldus vont imaginer de la société moldue et la réalité, quoi. Ça, je pense que ça peut être hyper drôle. Enfin, ça peut vraiment donner lieu à des trucs hyper loufoques, un peu le genre le Pratchett de la fantasy.
Il y a des sujets aussi, parce qu'on a, on a maintenant des auteurs qui vont parler de magie en rendant le truc un peu, j'allais dire dark, pas dans le sens auquel on peut y penser d'habitude, mais vraiment plutôt dans le sens où c'est, ils vont raconter une histoire dans un monde où il y a de la magie, mais en rendant la magie, les personnages qui vont considérer la magie comme un truc un peu pénible, pas pratique, etc. Je veux dire, je pense notamment à la saga Magicien.
Mm-hmm. Ouais.
Qu'à ça, il y en a d'autres qui sont un peu dans cette idée-là. Il y a la Scholomance un petit peu comme ça aussi.
Oui, mais la Scholomance, c'est Burke. Voilà. Pardon, c'était mon moment.
Je n'ai lu que le premier pour l'instant, donc partagé. Je trouve qu'il faut en voir plus. Mais du coup, je me demande un peu ce que ça donnerait, ce type de littérature, justement, en inversé de la part d'un auteur magique, d'un auteur sorcier, dans le monde, par rapport à des moldus. Je ne sais pas si ça pourrait exister. Et à contrario, du coup, est-ce qu'il y a des types de romans qui n'existent pas chez nous et qui pourraient exister chez eux. Alors, on a déjà parlé on a parlé des contes, de Biddle le Bard notamment. Après, on sait qu'il y a aussi de la littérature jeunesse, hein, avec, oui. Avec comment elle s'appelle, Béatrix... c'est laquelle ? Roxham ? Non, c'est pas ça. Je la confonds avec l'inspiration réelle. Celle qui a écrit des contes... un peu moins dark, justement, que Biddle le Bard.
Je sais plus.
Ah oui, j'ai oublié son nom aussi, ouais.
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Après, il y a aussi tous les romans d'aventure. Les romans de voyage, en final, parce que Lockhart, c'est un peu du roman de voyage, ce qui fait,
oui.
Au final, même, parce que je pense que les gens ne sont pas dupes, ils savent qu'il romance un peu, même s'ils pensent qu'il a réellement vécu une partie des aventures d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas le cas, mais ils peuvent le penser légitimement. Mais derrière, il romance forcément les choses aussi. Donc, donc ça rentrerait là-dedans.
Après, je pense que ça m'étonnerait quand même fortement qu'il n'y ait pas une version sorcière des romans policiers et tout ça. Enfin,
oui, c'est ce que je
forcément,
me disais
forcément, ça
aussi.
Doit exister. Hein, c'est...
Oui, bah oui.
En fait, je pense qu'effectivement, là où il y a sans doute le plus de différence, c'est sur voilà, ce que nous, on va appeler la littérature de l'imaginaire, parce qu'on n'est pas du tout dans le même référentiel. Mais par contre, je pense que... effectivement, tout ce qui est enquête, enfin, on voit que par exemple les aurores, ils exercent une certaine fascination sur les sorciers, et donc je pense que, alors forcément, ça serait avec des dynamiques différentes, des techniques différentes, des problématiques différentes, mais le côté intrigue, puzzle, à reconstituer, mystère, etc. Je pense que ça peut plaire. En fait, c'est des trucs qui sont assez universels et quand, enfin, toi, quand on suit les personnages. D'Harry Potter, c'est clairement quelque chose qui les concerne aussi. Et donc, je pense que ça peut complètement se retrouver en version magique. Et pareil, je pense que les romances.
Totalement.
Ça peut s'y retrouver aussi.
Je suis en train d'imaginer Molly en train de lire des romances en écoutant Célestina Moldubec.
C'est ça. C'est des thématiques qui sont universelles. Et même s'il va y avoir forcément des changements, etc., je pense que les sorciers vont aussi consommer de la romance et de la littérature blanche sur le quotidien.
Même la fantasy ou le fantastique, je ne sais pas comment il le catégoriserait, mais je pense que ça aussi, enfin, on serait vraiment dans la littérature de l'imaginaire version sorcier. Donc, est-ce que ce serait ce qu'on considérait un peu comme la science-fiction des sorciers, sauf que nous, du coup, ça se base sur la science, vu qu'on est dans un monde scientifique.
Ah ouais.
Mais est-ce que eux, ils n'auraient pas justement des histoires avec des systèmes qui permettraient de dépasser les limites de la magie telle qu'elle est, qu'ils la connaissent, quoi.
Roman d'anticipation, mais basé sur eux, leurs propres règles, quoi.
Oui, parce qu'en soi, la magie, alors même si c'est quelque chose qui reste pas hyper exploré dans la saga, mais on est conscient qu'elle a ses limites. Mmh. Et donc, on peut complètement, effectivement, imaginer une littérature de fantasy sorcière qui cherche à repousser ses limites. Et aussi juste à utiliser la magie autrement. Enfin, par exemple, bon, à nouveau, c'est quelque chose qui s'est ajouté au lore a posteriori, donc on voit pas vraiment les sorciers en discuter. Mais quand on sait que l'école africaine de Ouagadou, les sorciers apprennent à utiliser la magie sans baguette, on peut aussi imaginer que pour les sorciers européens qui utilisent une baguette, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Enfin voilà, il y a vraiment.
C'est difficile à imaginer,
C'est vraiment une conception de la magie et du quotidien extrêmement différente. Et donc, que ça peut sans doute stimuler aussi l'imaginaire et la relation que tu as avec tes pouvoirs, etc. Et donc, ça peut stimuler l'imagination et du coup, la création littéraire.
Et puis, mine de rien, je pense qu'il doit y avoir un genre qui n'existe forcément pas chez nous, mais qui existerait chez eux, dans le sens où eux, ils sont sûrs et certains qu'il y a autre chose que eux dans le monde. Ils savent qu'il y a les Moldus. Donc, il y a forcément un genre littéraire qui s'appuie sur le fait qu'eux, ils existent en tant que société cachée et où ils peuvent jouer avec le fait d'être cachés et d'interagir avec les Moldus, je pense. Alors, je ne sais pas comment, dans quel type d'histoire. Je pense que c'est un peu transversal. Je pense qu'on peut faire des choses un peu diverses, genre science-fiction, entre guillemets, où ils vont pouvoir rendre des Moldus sorciers, de l'immersion du policier en interaction avec... je pense que c'est transversal, mais je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez nous.
Ouais. Il peut y avoir certainement des dystopies qui peuvent, par exemple, se dire et si Grindelwald avait gagné à quoi ressemblerait le monde, enfin tu vois, des trucs comme ça, ça doit exister, je pense.
Un truc que je suis en train de me dire aussi par rapport au fait que là que tu me dises, c'est une grosse différence qu'ils ont par rapport à nous, c'est d'être conscient de ne pas être la seule société. Là où il y a aussi une énorme différence entre société sorcière et notre société moldue, c'est la multiplicité des espèces intelligentes.
Je vais garder pour plus tard.
Pardon.
Mais c'est parfait, mais vas-y.
Mais que du coup, je me dis qu'il y a forcément beaucoup de choses à écrire aussi sur ses rapports sociaux avec les centaures, avec les elfes de maison, avec les gobelins, ouais. avec alors bon, c'est pas vraiment des êtres vivants, mais avec les fantômes, avec les esprits frappeurs, etc. Et du coup, alors déjà, je pense que d'un point de vue littéraire, ça peut amener des réflexions hyper intéressantes, mais aussi que en fait, on peut avoir une littérature magique qui n'est pas écrite par des sorcières et des sorciers, mais qui pourrait y avoir des romanciers gobelins, des romanciers.
C'était ma deuxième partie. C'est pas un souci, au contraire.
On peut explorer ça et on reviendra sur autre chose après.
Désolé. Autant aller là-dessus, justement. C'était typiquement ma deuxième partie, littérature sorcière ou littérature magique, où je me demandais si d'autres aides pourraient en produire.
J'ai lu dans ton esprit à 4000 km.
C'est parce que c'est une question évidente, finalement, qui ressort vraiment en sous-couche dans Harry Potter et où on a tous envie d'en savoir plus. C'est justement, et ces autres êtres, justement.
Est-ce qu'ils ont de la littérature ?
À quoi ressemble leur vie, finalement ? À quoi ressemble leur monde ? Parce qu'ils vivent encore dans un monde un peu parallèle à celui des sorciers. Donc, est-ce qu'ils produisent de la littérature ? Est-ce qu'ils écrivent ?
La question se pose vraiment pour les gobelins, parce que pour le coup...
Sur quoi ils écrivent ?
Ouais, et à qui ? Enfin, je vois les gobelins écrire pour eux. Je vois pas les gobelins écrire pour les sorciers, par exemple. Enfin, se dire, on va écrire des choses et avoir un lectorat sorcier, ça je...
Mais les vampires...
Les vampires, si, par contre, là...
Bah oui, tu vois.
Tu peux ne pas chercher à avoir un lectorat sorcier et pour autant avoir un succès auprès des sorciers, ou en tout cas avoir des sorciers qui te lisent, c'est encore pas la même chose.
Ouais, mais j'ai l'impression que ça leur plairait pas trop, tu vois. Ou alors justement, il y a peut-être un peu un marché underground des sorciers qui adore la littérature gobeline et qui essaie absolument de trouver.
Et tu crois pas du tout à l'existence d'une littérature elfique ?
Moi, j'y crois à fond.
Attends, je vois tellement les elfes de maison revenir du marché avec leurs petits romans de gare mal imprimés au fond du panier pour le soir, quand ils auront tout fini les tâches, pouvoir lire 2-3 chapitres en feuilleton d'une histoire d'amour, d'un elfe qui a bien fait son travail.
D'un elfe qui a trouvé la liberté.
Oui, ça se vendrait peut-être moins bien.
Ah non, mais ça, c'est l'histoire d'horreur, ça. C'est l'histoire pour se faire peur.
C'est les chairs de poule. Et puis bon, il y a aussi la littérature qui pourrait être des aides, qui pourrait venir provenir d'êtres qui n'écrivent pas eux-mêmes,
qui dictent,
mais qui ont quand même des traditions, des habitudes orales, etc. Hein, comme les contes, au final, à l'origine, c'est une tradition orale qui est passée par écrit.
Ah bah ça, j'imagine totalement un sorcier ou une sorcière dédier sa vie à recueillir des récits.
Les centaures, les fantômes.
Oui, même les êtres de l'eau. Et les traduire pour les sorciers, carrément.
Des géants aussi, on peut imaginer. Alors, en fonction de leur sympathie.
Faut bien les choisir, quoi.
Mais, oui, c'est ça. Mais, mais typiquement, c'est un peuple qui a sans doute beaucoup de choses à dire, mais qui n'écrit pas, a priori.
Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que c'était le métier du père d'Hagrid d'aller récupérer des histoires?
Et c'est comme ça qu'il a rencontré... la maman d'Hagrid.
Oh, c'est trop mignon.
Ok, c'est mon nouveau headcanon.
Le papa d'Hagrid était collecteur de contes de géants. Voilà.
Oh. Ouais, c'est pour ça qu'il était pauvre aussi, je pense, parce que quand on voit l'intérêt que les sorciers portent aux autres êtres, globalement.
Mais en vrai, je veux trop une fanfiction sur un sorcier ou une sorcière collectionneur de contes de littérature magique non sorcière.
Ouais.
Ouais. Ce sera un bon prétexte pour des aventures, des trucs hyper intéressants.
Hein,
les frères Grimm du monde magique, version. Ça serait pas mal.
En vrai, j'imagine trop Hermione faire ça à sa retraite.
Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop...
Terre à terre.
Oui, et puis aller... Oui.
Mais en grandissant, elle change.
C'est pas une cerdelle, quoi. Moi, je vois vraiment, c'est plus un boulot de cerdé que ça.
Il y a quand même un côté aventureux nécessaire, je pense, pour faire ça. Et je pense que du coup, tu as quand même besoin d'un petit côté Gryffondor, quoi. Faut quand même oser aller s'aventurer. Enfin, surtout, ça dépend des peuples que tu approches aussi, mais...
Ouais, pour moi, c'est plus le côté un peu excentrique, côté curieux et qui, qui fait ça pour le... Parce que qui fait ça un peu aussi pour le... La beauté du geste, quoi, qui ne se fait pas attirer grand monde.
Pour les espèces un petit peu, pour les êtres un peu exotiques, entre guillemets, comme les géants, ceux qui ne vivent pas vraiment, en l'occurrence, là, on parle plutôt a priori de littérature britannique quand même, puisqu'on est, on se base sur ce qu'on connaît. Mais tu vois, pour aller voir, pour aller recueillir finalement les histoires des êtres de l'eau, des centaures, des gobelins ou des elfes de maison, bah, il n'y a pas forcément besoin d'être hyper aventureux, quoi.
Non, c'est sûr, ça dépend.
Ah, les centaures, faut pas être. faut plus. Enfin, non, les centaures, ça peut pas. Il faut pas être Gryffondor parce qu'il faut du tact quand même.
Oui, c'est ça. Non, et puis regarde, il y a tellement de personnalités différentes finalement chez les centaures que tu te dis, si t'arrives à bien les prendre, à bien leur faire comprendre le sujet, alors ils vont pas te partager tout et n'importe quoi, mais.
Si t'as. Faut tomber sur Firenze.
C'est ça. Si t'as passé un aspic en astronomie, peut-être que t'as une chance d'être BFF avec eux, mais.
Voilà, c'est bon, c'est hors sujet, mais oui, comme tu parles d'astronomie, c'est sûr qu'il y a des sorciers spécialistes d'astronomie qui ont dû se passionner pour les centaures et aller et essayer d'aller faire des séjours d'études avec eux.
Ouais.
Probable. Ne serait-ce que pour les différentes substances à absorber. Je rappelle que quand même, en cours d'astronomie, ils font brûler des plantes.
C'est en divination,
oui.
C'est pas aussi avec Firenze qu'ils font ça ?
Oui, mais Firenze, il enseigne la divination.
Oui, c'est en divination, pardon. Ouais. ouais, mais du coup, voilà, je pense que... Ouais.
Mais sauf que la divination telle qu'elle est enseignée par Trelawney, pour les centaures, ça vaut rien. Donc,
oui. Bah, alors que finalement, il y a quand même des choses qui sont viables. Donc, ils sont aussi un peu...
Ils sont snob aussi.
Un peu snob, ouais.
Mais c'est vrai, pour revenir sur qu'est-ce que lit, je pense, la plupart des sorciers. Ça, je pense que pour le coup, c'est peut-être un truc un peu de niche. Je pense les productions des autres êtres, ça doit être... Parce que connaissant les sorciers, voilà, je pense que la majorité des sorciers, ils sont pas hyper...
T'as une étagère chez Fleury et Bottes, hein.
Voilà, c'est ça. Ou alors, il y a des petites librairies underground, tu sais, très un peu alternatives, tu vois, qui proposent...
Dans l'allée des embrumes. Hey, tu veux un roman gobelin,
un peu comme... je pense que ce serait un petit peu comme, enfin, à l'image de notre monde, hein, où les voix des personnes, des minorités, c'est pas celles qui sont les plus mises en avant, c'est pas celles qui sont les plus lues, c'est pas celles qui sont les plus médiatisées. C'est sûr que c'est pas ce genre de bouquin qui ferait la une de la Gazette du Sorcier. Enfin voilà, quand on voit, bah, du coup là, c'est, enfin.
Après, il y a peut-être des modes.
Enfin, c'est la littérature, mais c'est pas de la fiction. Mais quand on voit, par exemple, là, ce qui marche, enfin, en tout cas, ce qui fait parler sur la Gazette du Sorcier dans l'univers, c'est par exemple, c'est les biographies écrites de Rita Skeeter, qui sont très dans le sensationnalisme, etc.
Ce qu'on connaît aussi, ouais.
Et c'est ça, de la même manière que nous, on va avoir les biographies de stars aussi, enfin, ou en tout cas de personnalités.
Ou d'anciens présidents de la République.
Oui. ou du prince Harry. Enfin, voilà, je veux dire, je pense que c'est un peu le même, c'est le même genre de
ouais.
Politique éditoriale, sans doute.
Ouais, bah oui. Après, il y a un job qui pourrait exister pour le coup, c'est secrétaire pour auteur fantôme. Hein.
Ouais.
Oui. Mais après, est-ce que les fantômes, ils ont l'air un peu. Moi, bon, quoique c'est mieux que les portraits quand même, mais c'est, ils sont un peu bloqués sur un truc quand même. Fin...
Bah ouais, mais tu vois, un auteur qui deviendrait fantôme.
Ah ouais, ouais. Bah ouais, mais est-ce qu'il peut inventer des nouvelles histoires? Je pense pas.
Bah, est-ce qu'il... Alors, peut-être qu'il tournerait un peu en boucle au bout d'un moment, mais est-ce qu'il pourrait pas quand même s'inspirer un peu de tout ce qu'il continue à voir? Tu vois, les fantômes de Poudlard, par exemple, s'il voulait écrire des... Il y aurait sûrement des choses...
Je pense qu'ils ont quand même une conscience de leur environnement, une capacité... À réagir à des choses. Enfin, voilà, quand on voit, bah, par exemple, toutes les interactions entre Harry et Mimi Géniard, par exemple, c'est pas des trucs qui ont été préenregistrés ou qui sont.
C'est pas les tableaux, en fait.
C'est ça. C'est...
Les fantômes, c'est pas les tableaux.
Oui, c'est pas les
ils
tableaux.
Ils ont encore leur personnalité, ils ont encore. Ouais. C'est vraiment juste qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller de l'autre côté du tunnel, quoi.
Ouais. Mais il y a quand même une. A priori, des facultés intellectuelles et. Et je pense, une conscience de leur environnement et une capacité à échanger avec les autres qui est quasi intacte, a priori. Enfin, on n'a pas l'impression, quand on dialogue avec... quand on voit les personnages dialoguer avec les fantômes, que ce soit Nick quasi sans tête, que ce soit Mimi Géniard ou quoi que ce soit, qui sont, je ne sais pas, bêtes ou complètement à côté de la plaque. Enfin, des fois, ils ont l'air d'être plus, effectivement, d'être un peu... monomaniaque sur certains trucs. Enfin voilà, Nikasis en tête, c'est voilà le fait qu'il n'ait pas été décapité jusqu'au bout. Mimi Géniard, voilà, c'est le rejet dont qu'elle a subi, etc. Mais
ils ont l'air ouais, d'être bloqués quand même dans une émotion, même s'ils arrivent à interagir avec les autres, mais enfin, dans ou dans une idée, tu vois.
Peut-être qu'au bout d'un moment, ils auraient un décalage effectivement avec l'époque,
oui,
qui fait que ce qu'ils produiraient ne marcherait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seraient pas capables de créer des nouvelles choses, mais peut-être en restant bloqués sur un style, sur des thèmes qui correspondent pas à l'époque, par contre, à laquelle ils se retrouvent.
Alors, ne marcherait pas à nouveau, je pense que, enfin, je suis peut-être pas le public machin, mais représentatif, mais personnellement, les mémoires d'un fantôme qui vit à Poudlard depuis 500 ans et qui veut faire des tranches de vie 500 ans d'élèves de Poudlard, moi, je signe tout de suite. Hein,
on n'aura jamais le temps de tout lire, en plus, parce que s'il en produit un par an pendant 500 ans...
Non, mais c'est, enfin, justement, c'est une compilation, ouais, tu vois, c'est pendant... voilà, j'ai le 16e siècle à Poudlard, tu vois, tu fais un tome par siècle avec des anecdotes comme ça, un peu, ouais, façon vraiment tranche de vie sur le quotidien des élèves à cette époque-là. Ça peut être hyper fun, quoi, en vrai.
Un nouveau genre, finalement, un peu.
Ouais. Et ça, et du coup, mine de rien, les fantômes, ils ont aussi cette... ce que, logiquement, nous, on n'a pas, c'est cette mémoire et cette capacité...
C'est là où j'ai des doutes. J'ai l'impression que... ils ont perdu un certain contact avec la réalité quand même, les fantômes. Ils arrivent à interagir avec... mais parce que sinon, ça serait les fantômes, on pourrait les considérer comme des personnes immortelles qui n'ont plus de corps. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment ça, quoi.
Bah, ils n'ont pas la capacité à interagir directement quand même avec le monde.
Ouais. Donc, Et du coup, je pense que ça les coupe quand même, le fait d'être dans cet entre-deux. Ça doit les couper quand même d'une certaine expérience du monde qui fait que je ne suis pas sûre qu'ils peuvent...
Bah, il manque d'empathie, je pense.
Techniquement, oui. ils se souviennent de tout ce qui se passe au quotidien, quoi. Je suis pas sûre.
Bah, je pense que tu oublies forcément des trucs au bout d'un moment.
Oui.
Surtout quand tu vis 600 ans.
Tu non-vis 600 ans.
Ouais. Non, mais je pense que du coup, il y a un plus gros tri qui se fait, etc. Mais je pense que tu as quand même... en tout cas, clairement, par exemple, Nikasis en tête ou la Dame Grise... elle se souvient très bien du moment où elle était en vie. Donc,
ah oui, mais c'est pour ça, je pense que ça reste bloqué là-dessus.
Oui, même d'autres personnages. Regarde, elle se souvient quand même très bien du fait qu'elle a discuté avec Géduzar, qu'il était sympa et tout. Et ils sont quand même, mine de rien, je pense que quand ils sont plongés dans leurs pensées, ils sont vraiment déconnectés, mais que quand ils veulent se concentrer un petit peu sur le monde vivant, le monde réel, ils y arrivent, hein.
Je pense que surtout qu'ils ont une vision logiquement de la temporalité qui est complètement distendue par rapport à la conception que va en avoir un être humain mortel qui est vivant à ce moment-là, etc. Et donc c'est un peu comme évoluer dans deux temporalités différentes et qui peut-être donner l'impression d'être bloqué sur les trucs alors qu'eux n'ont peut-être pas l'impression. Mais du coup, je pense que enfin.
Est-ce qu'ils pourraient du coup aussi ça pourrait aussi, du coup, limiter leur capacité à produire des œuvres...
Je sais pas.
Justement, puisque du coup, ils vont peut-être commencer quelque chose. Ils vont peut-être tourner un petit peu en rond pendant 3 mois sur 3 phrases en se disant « Oh, bah, c'est rien, voilà. »
Ça, les auteurs vivants font ça aussi. Hein.
Oui, non, mais au bout d'un moment, les auteurs vivants, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de payer le loyer, etc. Donc, ils vont finir par pondre quelque chose quand même, même s'ils n'en sont pas forcément...
Parce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de leurs plumes.
Pas énorme, non. Mais pour un fantôme, ce ne serait pas la même.
Non, c'est sûr.
Et peut-être qu'effectivement, ils vont commencer un sonnet par ici, un roman par là, et que bon, au bout de 2 siècles, ils vont se dire « Ah, j'ai fini le premier chapitre !» Bon, allez, faut que je finisse de dicter, il est où mon secrétaire ? Ah mince, il est mort il y a 50 ans.
Oui, non, c'est sûr que ça change un peu. Enfin, voilà, c'est pas le même rapport au travail, du coup.
Ouais. Non, tout ça, moi, je reste sceptique sur la littérature fantôme, mais bon, pourquoi pas.
Écoute, si tu préfères la littérature des êtres de l'eau ou des elfes, il n'y a pas de souci, hein, tu peux aussi.
Ah bah, les elfes, je demande à voir. Je serais curieuse. Les êtres de l'eau aussi, bah, c'est toute une civilisation aussi, là, pour le coup.
Je suis sûr qu'il y a un elfe un petit peu... façon Marquis de Sade. Il y a quelque chose.
Non, je ne peux pas penser à ça.
Il y a forcément quelque chose.
Ouais, non, je sais, ouais. Les elfes...
Servitude dangereuse.
Servitude dangereuse. Non, les elfes, c'est vrai que je pense qu'effectivement, j'imagine bien l'image que tu nous as mis tout à l'heure, de les imaginer avoir leur petit roman de gare pour se décompresser après leur journée de travail, c'est assez... J'aime bien cette image. Après, oui, pourquoi pas. Je pense qu'après, ça dépend. Je pense que là, pour le coup, les elfes, ça peut être très variable en fonction de la relation qu'ils ont avec leur maître aussi. Mais on peut très bien imaginer des elfes... des elfes de maison d'écrivains ou d'intellectuels avec lesquels ils ont pu collaborer et peut-être bosser ensemble, hein. C'est pas impossible. Ouais, peut-être que justement il existe quelque part un elfe qui est en fait la plume d'un écrivain célèbre, et en fait on découvre, il y a un scandale et on découvre que tous les romans de cet écrivain ont été écrits par son elfe.
Ça m'étonnera tellement pas qu'il y ait des...
Rita Skeeter qui n'a pas écrit ce livre elle-même.
Franchement...
Bah oui, non mais forcément.
C'est pas le ghostwriter, c'est le elfwriter.
En plus, dans le cas du ghostwriter, ce serait le contraire. Ça.
Eh oui.
Du coup, avec le fantôme, c'est...
Ouais, non, c'est littéralement un ghostwriter.
Je suis le ghostwriter d'un fantôme.
Normalement, le ghostwriter n'apparaît pas sur la couverture. Là, c'est le nom du fantôme qui apparaît, justement.
Justement, c'est le ghostwriter au sens strict. J'écris pour le fantôme.
Bon, après, il n'y a pas non plus que... Là on parle surtout roman, on a évoqué rapidement la bande dessinée. Après, il y a probablement, effectivement... Je pense qu'il y a... C'est quand même quelque chose qui paraît assez universel à partir du moment où ils ont l'imprimerie, de se dire qu'effectivement, la littérature au moins jeunesse et bande dessinée au moins bande dessinée jeunesse, il y a quand même une production, une petite production.
Oui. Puis c'est vrai qu'on ne peut pas oublier le fait qu'il y a quand même une partie de la société magique qui vient du monde moldu. Donc forcément, il y a de l'importation de certaines choses depuis le monde moldu. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément dans la saga, mais ça doit forcément... C'est forcément présent. Enfin, on a toujours l'impression que les sorciers nés moldus se coupent complètement du monde moldu, mais je pense que c'est pas totalement le cas, quoi.
Bah, à un moment, ils ont quand même bien envie de porter un jean.
C'est ça, c'est qu'il y a aussi, enfin, il y a clairement une sélection des trucs qui ont été acceptés dans le monde sorcier. Enfin voilà, le train, la plomberie. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a plein de trucs qui sont arrivés. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été intégrées au monde sorcier. Qu'on s'en rende compte ou pas. Mais par contre, c'est vrai que là où ça peut être... Enfin, à nouveau, des fois, on voit à quel point la société sorcière est bancale, mais c'est sur vraiment le fonctionnement, enfin, du milieu littéraire, de la production, de l'édition, etc. J'en ai discuté avec Panta en off sur la question du copyright et du droit d'auteur. Dans le monde sorcier.
On va retomber sur... on risque de boucler sur l'économie magique. Là, c'est... il y a de quoi faire.
Mais parce que c'est toujours aussi ce truc aussi qu'on nous montre dans la saga où les objets peuvent facilement être multipliés, à quelques exceptions près, mais en l'occurrence, les livres, c'est pas mentionné comme un truc qui est... qui ne peut pas être dupliqué. Et en fait, effectivement, on ne voit pas les bouquins être dupliqués, même dans des cas où ça aurait été nécessaire. Typiquement, au début du tome 6, Harry et Ron, ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas leur bouquin, leur manuel de potions avancé. Et donc, il faut les faire commander, etc. La question de dupliquer le bouquin d'Hermione ne se pose pas, par exemple.
Il a sorti la gentille copie, hein, comme sur les DVD.
Oui, mais
c'est ça. J'allais dire, peut-être que justement, tous les livres imprimés et vendus de manière légale, entre guillemets, il y a peut-être une législation qui fait qu'il y a un sortilège de protection anti-duplication, peut-être.
Mais même le chicaneur, il duplique pas ses numéros à la main, hein, il les imprime. Hein, donc,
Mais après, ouais, peut-être que après sortilège de duplication, il y a des limites aussi. Je pense que
tu perds en qualité, tu perds.
Ouais, et puis tu peux pas les conserver ad vitam non plus, des trucs dupliqués. Il suffit que quelque chose arrive à la personne qui a dupliqué et c'est fini, quoi. Donc c'est quand même un petit peu, c'est compliqué. Mais ouais, non, je pense que ne serait-ce que ça, effectivement, ne serait-ce que ne pas oublier que créer une copie, enfin avec un sort, c'est dépendant quand même de la personne qui a lancé le sort. Ça pose quand même une limite qu'on n'a pas envie de mettre sur des livres qu'on veut garder et qu'on veut transmettre. Il y a ça aussi.
C'est sûr.
Mais ça doit se faire, des copies illégales.
Oui, il doit y en avoir, inévitablement. Mais surtout, c'est vrai que voilà, quand on pense bah, typiquement aux Weasley qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., on pourrait se dire, bah, tu vois, pourquoi ils n'ont pas, au moment, dupliqué le bouquin tu vois, je sais pas, par exemple, Fred et George, alors est-ce que, du coup, ils se partageaient leur bouquin ou est-ce qu'ils les achetaient en deux exemplaires
Ah bah, en double,
hein. Je ne sais pas s'il y a des bibliothèques Poudlard, quoi.
Bah, c'est jamais mentionné, en tout cas, quoi.
Ah oh bah, s'il y en a une, y en a une à Poudlard, il y a des librairies, il doit bien y avoir des bibliothèques. Mais après, il y a quand même pas énormément non plus de gros rassemblements, de grosses zones où les sorciers vivent ensemble. Donc, c'est un peu compliqué de faire une bibliothèque.
Il n'y a pas besoin. Après, ils ont quand même pas trop de problèmes pour se déplacer. Donc,
oui.
En mettre une sur le chemin de travers, ça semble quand même...
Oui, ou une après au
large. Ils n'ont pas trop de problèmes pour se déplacer. Ça dépend aussi. Tu vois, avec un petit enfant, tu n'as pas forcément envie de prendre la poutre de cheminée. Tu n'as pas forcément envie de... Donc,
ouais. Bah, tu te le fais livrer par Hibou.
Ouais.
Bibliothèque par Hibou.
Ouais. Mais après, ouais, il y en a peut-être une, effectivement, quand même à Londres. Il y en a peut-être une petite après Olar, dans quelques villages où il y a beaucoup de... Il y a une grosse concentration de sorciers, mais sinon...
Ouais, c'est peut-être plus des collections personnelles, effectivement, mais...
Ben, c'est ça, hein. À l'ancienne. Et après, peut-être qu'il y a aussi tout ce qui est littérature non écrite, qui fonctionne encore beaucoup, hein. C'est quand même un univers assez... conservateur, mine de rien, un peu à l'ancienne, donc peut-être qu'ils ont davantage gardé ces traditions des contes racontés à l'oral et ce genre de choses.
Ouais, est-ce qu'il y a des conteurs qui font des tours aussi
Moi, je trouverais ça mignon.
Des petites tournées de conteurs.
Ouais. Avec des veillées, tout ça.
Un petit conteur qui raconterait ses histoires et qui ferait des effets avec sa baguette.
Oh, j'adore. J'aimerais trop voir ça. C'est vraiment, tu vois le conteur et qui fait vraiment de la petite magie. La
un
magie
peu comme
très,
les marionnettes, quoi.
Très jolie, ouais, des marionnettes, des...
Ça pourrait être ça ou juste des effets de lumière, d'ambiance.
Ouais, pour les tout-petits, tu sais, avec des trucs...
Mais t'imagines déjà les albums jeunesse et les bandes dessinées jeunesse, du coup, tous les trucs doivent être...
Enchanté.
Les dessins doivent être animés, enfin, ah, ça doit être tellement cool.
Après, nous, on a les dessins animés, je pense que pour les sorciers...
ils oui, doivent... mais c'est pas pareil.
Imagine un enfant sorcier qui a jamais vu de dessin animé et ça doit sembler complètement... ouf, quoi.
C'est pas pareil quand c'est dans un
livre. Ça fait une bonne transition parce qu'il y a encore un genre littéraire dont on n'a pas du tout parlé alors qu'on sait qu'il existe chez les sorciers, c'est le théâtre.
Oui.
Ah, oui, effectivement.
Et on sait qu'il existe puisque on en parle dans Les Animaux Fantastiques, justement. Non, dans les... Pardon, pas dans les...
Quand il travaille à les âges.
Non, je crois que c'est dans Les Animaux Fantastiques à propos d'un serpent cendre. Parce que c'est...
Bah dans les journaux c'est les qui apparaissent... De des...
Non, c'est dans les contes de Biddle. Dans les notes de Dumbledore sur les contes de Biddle, je pense.
Oui, avec un conte qui a été mis en scène.
La fontaine de la bonne fortune. La fontaine de la bonne fortune qui s'est jouée à Poudlard.
Avec le serpent cendre qui a foutu le feu à la grande salle. Donc ouais, il y a quand même... Et là, peut-être, effectivement, la question, c'est du coup, bah, est-ce qu'il y a des... On parlait des bibliothèques, est-ce qu'il y a des théâtres, quoi ? À quoi ressemble...
Minalima, en tout cas, dans ses créations, dans les journaux qu'ils ont créés pour les films et notamment pour Les Animaux Fantastiques, il y a beaucoup de mentions de comédie musicale, de théâtre, tout ça. Donc, ça c'est très présent dans ses profs. Après, on ne connaît pas, je ne crois pas qu'il y ait les lieux, mais il y a au moins les pièces quoi, qui sont mentionnées.
Après, oui, c'est peut-être du théâtre aussi à l'ancienne, un petit peu comme le théâtre forain, sur des scènes un peu mobiles. Un petit peu comme le cirque qui existe aussi, donc peut-être que c'est plus du théâtre de type forain et moins quelque chose d'installé.
Ou de salon, quoi, les trucs qui se font...
Oui, chez les nobles.
Chez les grandes familles.
Les sans-pures, quoi.
À domicile, théâtre à domicile.
C'est, au lieu de collège au cinéma, ils ont théâtre à Poudlard, la troupe qui se déplace directement.
Ouais.
Et pas de peau, dis donc, en 6 ans à Poudlard, eh ben Harry, il n'a jamais eu une troupe qui est venue faire du théâtre.
Non, par contre, il y a eu le tournoi des trois sorciers.
Ça l'a juste tellement pas marqué, en fait, il y en a eu tous les ans, mais ça l'a tellement pas marqué qu'on nous en a pas parlé.
En fait, à chaque fois que c'est arrivé, il était inconscient à l'infirmerie.
Oui.
Il a séché, en fait. Il allait faire... C'était sur inscription, et il disait non, mais...
Ça l'arrange bien.
Moi, ce jour-là, j'ai entraînement de Quidditch. Mais Harry, c'est toi qui es le capitaine et qui décide des horaires. Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous le dis, il y a entraînement de Quidditch. Mais je pense qu'il y a du potentiel quand même sur le théâtre sorcier aussi.
Bah ouais.
Hein.
Mais il pourrait y avoir un club de théâtre à Poudlard. Hein.
Bah, y a, y a eu.
Il y en a peut-être, c'est juste que Harry s'en fout complètement, comme de beaucoup de choses.
C'est une légère digression, mais voilà. C'est l'actrice Rachel Bloom qui a le rôle titre de la série, la très bonne série Crazy Ex-Girlfriend, qui a écrit un bouquin et dans lequel elle explique qu'elle est une très grande fan d'Harry Potter et que. Du coup, et comme elle est aussi très grande fan de théâtre, à chaque fois qu'elle lit des bouquins avec des univers imaginaires, elle imagine à quoi ressemble le club de théâtre dans cet univers. Et donc, qu'elle avait écrit toute une fanfiction sur le club de théâtre de Poudlard, où Harry refuserait de... qui était animé par genre professeur Gobe-Planche et Harry refuse de
tellement improbable.
On confie le rôle principal à Harry pour redonner de la popularité au club de théâtre parce que tout le monde s'en fout et puis Harry refuse
parce que c'est le premier à s'en foutre
et du coup le club de théâtre se casse la gueule et des années plus tard Harry essaye d'avoir des tickets pour Hamilton avec Ginny. Et il va, et le truc est à guichet fermé, et il voit que c'est Gobe-Planche à l'accueil. Et il dit, oh, mais on peut négocier, je peux avoir deux tickets et tout. Il dit, non, t'as refusé le rôle à cause de toi, le club de théâtre a été fermé, donc je te donne pas de ticket pour Hamilton. Et la conclusion, c'est, et du coup, ils sont allés voir Mamma Mia.
Bon, c'est bien aussi. Hein.
Voilà, la parenthèse mais...
pertinente.
J'accepte tout à fait cette headcanon aussi.
Mais c'est vrai qu'en théâtre, il y a beaucoup de potentiel parce que même en restant sur du théâtre lié à leur quotidien, enfin du monde magique et tout, il oui. y a quand même de quoi...
De tout, quoi. Tu pourrais faire du théâtre de boulevard, quoi, des quiproquos oui. avec un...
Changement de...
Avec un sorcier ou une sorcière qui voudrait présenter son fiancé ou sa fiancée à ses parents. Et en fait,
c'est un moldu.
Le fiancé ou la fiancée, c'est un moldu. Et l'idée, c'est que les parents ne s'en rendent pas compte.
Ah oui, et donc le moldu fait des faux tours et derrière, il y a toujours quelqu'un pour faire à sa place.
Ouais, je ne sais pas, ou que ce soit volontaire ou involontaire, que les parents ne s'en rendent pas compte. Est-ce qu'il faut que les parents ne s'en rendent pas compte parce que sinon, ils réagiraient mal? Ou est-ce que c'est juste qu'ils font tout, les deux fiancés, pour le mettre sur le tapis de sujet, les parents font tout pour ne pas voir le truc.
Tu fais la version sorcière du prénom où le prénom du gamin c'est Gellert.
Et là tu as semi-spoilé le prénom pour toutes celles et ceux qui...
Ah ouais, moi je savais pas, du coup je savais pas que le plot twist du prénom. Mais bon, je m'en fiche un peu. Mais
il y a plein de potentiel, et puis au niveau de la...
Non, mais il y a du potentiel, après il peut y avoir...
Du théâtre d'impro aussi, du coup, où t'as pas besoin de beaucoup de matériel. Théâtre d'impro à Poudlard, sur les tables du banquet, tout à coup.
Bah, avec le plus que peut apporter, du coup, le fait que t'es acteur et magicien, donc tu peux faire apparaître des choses dont t'as besoin.
Ouais.
C'est pratique.
Ah ouais, du coup, c'est du double skill d'impro, d'être à la fois fort en impro en tant que tel et fort en sortilège pour...
Ouais, en métamorphose, faire apparaître de la brume, changer le... En fait, tu fais la mise en scène, tu fais vraiment la mise en scène en même temps et le décor, quoi.
En impro.
Tu fais apparaître le décor et en même temps, tu dois parler. Pas simple sur la gestion des formules, des sortilèges informulés
c'est,
aussi.
C'est ça. Et du coup, si t'es Animagus, c'est encore mieux, quoi. Mais du coup, si on revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intérêt pour les peuples et les sociétés différentes, du coup, c'est là aussi où maîtriser la magie sans baguette, ça peut être vachement bien aussi sur scène.
Alors, ce serait intéressant, je pense, effectivement, hein, pour le coup, du théâtre inter-spécifique. Waouh, qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi.
Les elfes de maison prennent le pouvoir.
Ouais. Bah, je pense que les elfes de maison, tu peux leur faire faire du théâtre sans trop de problèmes.
Oui. Ouais, est-ce que tu as envie de regarder une pièce de théâtre jouée par des elfes de maison après? C'est ça la...
Pourquoi pas? Moi, je pense que Dobby serait super.
Oui.
Ça dépend des histoires.
Moi, je veux un one-man show de Dobby.
Ah, mais oui, où il raconte l'histoire de toutes ses chaussettes.
Oh putain. Oh putain.
Mais non, mais où il raconte toutes ses aventures avec Harry Potter, avec des petites blagounettes. Et c'est là que j'ai ensorcelé le cognard.
Et là, t'as le cognard qui fonce dans le public.
Et du coup, il était encore à l'infirmerie, youhou.
Et là, je fais en sorte qu'il se mange le mur de la gare.
Et il était toujours pas mort.
Non, il y a...
T'imagines un peu aussi le truc, genre les mémoires de... des elfes de maison, genre créatures, tu vois, qui a servi les Blacks, et où toute sa famille a servi les Blacks, et t'as les mémoires de la famille comme ça, d'elfes de maison. Enfin,
c'est peut-être ça qu'il a fait pendant toutes ces années où il était tout seul au 12 Square Grimor. Il écrivait ses mémoires.
Bah, il écrit surtout une hagiographie à la gloire de Walburga.
De Régulus.
Bah, une page de mémoire pour 100 pages d'hagiographie.
Et là, c'était le jour où Maître Régulus a fait ses premiers pas. Le plus beau jour de ma vie.
Ah oui, il le fait carrément. Il fait carrément en mode bande dessinée, lui.
Mais du coup, ça veut dire que les elfes de maison sur scène, s'ils sont pas libres, ils peuvent pas changer de costume.
Ils peuvent changer de torchon. Ils peuvent se faire une toge avec un torchon en satin ou un morceau de fourrure ou.
Après, techniquement, si dans le théâtre il y a des tas de tissus qui sont abandonnés, bah, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Les elfes de maison, c'est pas un vêtement qu'on leur a donné.
On leur donne pas, en plus. Ouais. On leur confie pour qu'ils mettent, pour qu'ils jouent un rôle.
Si on les ordonne de porter un costume, ça marche. Ah non, ça marche pas. Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment le formuler de manière très, très spécifique. Mais est-ce qu'on veut garder les elfes de maison enchaînés?
Non.
Il faut une troupe de théâtre d'elfes libres.
La troupe des elfes libres. Je vote pour.
C'est du théâtre d'être de l'eau, ça doit être sympa aussi. C'était au-dessus de... En fait, là, la scène, elle est en dessous de toi. Toi, tu regardes en bas puisqu'ils sont dans l'eau. Et c'est vraiment plus du mime ou des choses comme ça, quoi. Avec peut-être de la musique. On est sur de la comédie-ballet.
Un peu façon, opéra. Ballet.
Une comédie-ballet, peut-être avec d'autres êtres hors de l'eau qui vont déclamer, raconter l'histoire.
Peut-être.
Un petit peu à comme le théâtre antique, avec le coryphée qui raconte ce qui se passe.
Encore une fois, je ne suis pas sûre que les êtres de l'eau aient un grand intérêt, un grand envie de faire ça pour les sorciers. Mais...
Peut-être pas pour les sorciers. Mais après, il faut aussi... Imaginez comment les choses ont pu évoluer. Nous, on est resté sur une société un petit peu telle qu'elle était au milieu des années 90, quoi. Peut-être que derrière, en un quart de siècle, les choses ont évolué et il y a plus d'interactions possibles. Et justement,
quand Hermione est devenue ministre de la magie, tout a changé.
Peut-être que les sorciers ne s'intéressent pas aux production des êtres de l'eau, mais peut-être que les gobelins s'y intéressent, peut-être que les centaures s'y intéressent, et peut-être que il y a aussi d'autres espèces conscientes qui justement préféreraient lire des récits, des histoires d'autres espèces que, enfin, en tout cas, mais pas de sorciers et sorcières.
Ouais. Pour le coup, en termes d'êtres, on connaît vraiment. Une petite portion, je pense, de ce qui pourrait exister. Hein.
Oui, et qui n'est pas forcément représentative non plus. Enfin, c'est vrai qu'on ne sait pas...
Moi j'aime faire... quand j'écris, j'aime faire intervenir des faunes, pourquoi pas des nagas, des choses comme ça. Et y a encore plein d'autres êtres. On sait qu'il y a les farfadets et les vélanes qui existent. Il pourrait y avoir potentiellement... des gnomes.
Des gnomes, enfin,
les gnomes. Les gnomes existent, mais ce n'est pas ceux auxquels je pense, évidemment. Mais... je pense plutôt à ceux, aux gnomes scandinaves, mais voilà. Puis en Asie, il y en a sûrement plein que je ne connais pas, en Océanie, des choses. Enfin,
Oui, puis plein de formes d'esprit. Enfin, voilà, on a l'exemple unique de Peeves dans Harry Potter, mais on peut imaginer d'autres esprits dans le même genre, mais avec des personnalités très différentes aussi, qui peuvent être intéressants aussi.
Et accessoirement, la littérature, c'est pas la même en Europe ou en Occident que en Asie. Et encore, l'Asie, c'est grand, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Il y a déjà rien que chez les Moldus, il y a plein de types de littérature qui dépendent aussi des aires.
Oui, du contexte géopolitique,
des aires civilisationnelles, etc. Donc, j'imagine qu'en magie, c'est encore plus vaste à travers, avec tous les êtres qui existent. Il y a une diversité entre les êtres et en plus à l'intérieur de ces spécificités, chez tel être, il doit y avoir une grande diversité chez les sorciers, une grande diversité chez les elfes de maison, une grande diversité chez les centaures. Parce que les centaures, ils doivent avoir, au niveau air géographique, ça doit être important. Parce que bon, ils ne sont pas originaires d'Écosse à la base quand même, les centaures, a priori. Donc,
quand ils sont trouvés en Écosse d'ailleurs.
Ils sont paumés.
Ils ont trop regardé Mars et ils ont dévié de leur trajectoire.
Ouais, c'est ça, ils ont suivi l'étoile du berger et puis à un moment ils sont tombés sur la Baltique. Alors ils ont longé, ils sont tombés mer du Nord, ils ont traversé.
Comment ont-ils traversé?
Oh, ça nage un cheval. Hein.
En pleine mer.
Oh, écoute, c'était pendant une période glaciaire, c'était pas très profond. On ne sait pas.
Après, est-ce qu'on est sûr que tous les centaures sont originaires de Grèce? Pas sûr, hein, de Méditerranée.
Non, pas forcément.
Il y a peut-être des centaures indigènes de l'Écosse.
C'est plutôt d'Anatolie déjà, mais...
Il y a peut-être des centaures indigènes d'Écosse. Ah. C'est une autre question.
Bon, ça peut faire un autre épisode.
On peut faire un épisode sur les êtres, sur les autres créatures magiques, ça, il n'y a pas de souci.
C'est clair qu'il y a
ça me plaît toujours beaucoup.
Il y a du choix.
On a un peu parlé déjà des thèmes. Ouais, non, on a quand même pas. Bon, je dirais pas qu'on a épuisé le sujet, mais je pense qu'on a quand même, on a quand même bien fait le tour déjà.
Oui, on a même fait une petite excursion du côté du théâtre, qui était bien.
On n'a pas parlé poésie, mais ça me paraît assez évident qu'il y a une grande tradition poétique chez les sorciers, forcément.
Ah ben, bah, on le voit même chez les gnomes de Saint-Valentin de Lockhart, hein, qui délivrent les poèmes écrits par les jeunes adolescents de Poudlard.
Ginny, ouais, ils connaissent. Son vieux.
Non, mais après, en plus, quand
ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. C'est...
Quand on voit comment à quoi ressemblent les formules, les textes d'alchimie, les traités d'alchimie, c'est que de la poésie, des trucs un peu rimés, etc. La magie, c'est des incantations, c'est des... Donc, il y a forcément une grande tradition, je pense.
C'est vrai qu'il... Oui. Surtout, la magie occidentale et britannique, occidentale, c'est tellement basé sur les mots, sur la langue, etc., qu'effectivement...
Ah ben, en Afrique aussi, hein.
Oui.
Regarde, l'Égypte et même la Mésopotamie, toutes les formules qui sont...
C'est vrai,
les rimes, les célébrations antiques, c'est du chant, c'est du chant, de la danse, de la poésie, il y a quelque chose quand même, forcément.
C'est vrai, quand on pense à l'Asie et à l'Égypte, le pouvoir de l'écriture écrite,
les mots,
vraiment, à partir du moment où elle est écrite, c'est encore plus que là, dans l'Occident, c'est pas forcément un papier avec une formule dessus qui est magique, c'est la parole. Mm. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la poésie, c'est forcément présente dans plein de sociétés sorcières, c'est sûr.
Bah, puis, mine de rien, certains aspects de la poésie, les rimes, les choses comme ça, se retrouvaient aussi parfois dans les contes, et donc qui est aussi quelque chose... parce que ça faisait partie de la tradition orale, justement, le jeu sur les sonorités, etc. Et donc, c'était des choses qui étaient...
La répétition.
Mais c'était des choses qui étaient extrêmement liées. Quand on connaît l'importance des contes de l'oralité chez les sorciers, c'est pas vraiment surprenant, difficile d'imaginer une tradition poétique importante, quoi.
Vous imaginez un spectacle, c'est peut-être pas ce que le terme, mais... une représentation d'un poète sorcier sur scène où, en gros, il a travaillé son texte pour que, quand il déclame, il y a des formules intégrées dedans et qu'en même temps que le texte, il y a des choses qui apparaissent, qui fait apparaître et tout. Ça doit être ouf.
Ce serait trop cool.
Ouais.
Il n'y a pas genre les sonnets d'un sorcier qui existent aussi
Qui rendent, qui condamnent, c'est malédiction, mais ouais.
Est-ce que c'est les sonnets en eux-mêmes ou est-ce que c'est l'objet livre qui contient les sonnets qui est ensorcelé? On ne sait pas trop, mais...
Oui, ou du coup, celui qui l'a lu est, entre guillemets, condamné à parler en vers jusqu'à la fin de ses jours, je crois que c'était ça.
C'est vrai que quand on y pense, on n'a pas exploré ça, mais la littérature sorcière, ils peuvent planquer pas mal de magie en tant que telle dans leur texte, quoi. Et du coup,
tu vois tout ce qui existe.
Ça peut être dangereux.
Quand tu existes, tu vois tout ce que les moldus sont déjà capables d'imaginer. et c'est pas épuisé. Tout ce qui, toute la potentialité qu'il y a encore plus chez les sorciers, les magies et les êtres magiques avec, avec le pouvoir, le véritable pouvoir derrière les mots, effectivement, c'est...
Gros potentiel.
Et du coup, c'est vrai que quand on y réfléchit, je trouve ça d'autant plus étrange, en fait, que ce soit quelque chose qui soit pas du tout mentionné à Poudlard, par exemple, tu vois. Que ça fasse pas partie... que ce soit pas intégré à leur cours d'histoire de la magie ou...
Alors, en vrai, c'est peut-être, ils le voient peut-être en sortilège et c'est juste que... Je veux dire, à part... il y a quand même assez peu de cours qu'on suit réellement...
Oui.
Le programme scolaire de Poudlard, il est quand même assez flou. Hein.
On en a aperçu quand Harry explore la bibliothèque, on voit tous les types de livres.
Oui, justement, à nouveau.
C'est pas la littérature, mais bah, quoi qu'après, la frontière entre livres de connaissances magiques et littérature, elle est peut-être des fois un peu floue. Ah, hein, parce que...
C'est ça, hein. Et c'est comme littérature de fiction, non-fiction, qui est...
Oui, mais quand on voit quand même à chaque fois les bouquins qui sont mentionnés globalement chez Fleury et Botte, les bouquins qui sont à la bibliothèque de Poudlard, le bouquin de Newt, bon, qui est aussi un manuel, c'est quand même beaucoup des ouvrages de référence, des ouvrages avec une dimension d'apprentissage, des livres éducatifs, universitaires.
Probablement aussi parce qu'on s'attend à ce qu'ils se réfèrent régulièrement à eux et qu'ils ont du coup besoin de les avoir.
Oui, bien sûr.
Mais, par exemple, tu vois, ils pourraient avoir une lecture suivie en cours, je sais pas, de sortilège, par exemple, pour traiter justement de ce sujet-là. Et du coup, peut-être que on leur prête un livre de la bibliothèque de Poudlard et que ça dure un mois et au bout d'un mois, ils le rendent et puis voilà quoi.
Ouais,
donc, ils n'ont pas besoin de l'acheter parce que c'est juste pour faire une lecture cursive.
Non, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, je me dis, ouais, c'est étonnant que ce soit pas du tout quelque chose qui soit effectivement, comme on dit, ou avec Molly Weasley, qui pourrait être, effectivement, que j'imagine très bien lire des romances, comme on disait, Hermione, au sein de certains, intégrés à certains cours, quoi.
Oui, et puis on pourrait imaginer quand même que Ron, on voit Martin Mix que dans sa chambre, mais
oui.
Dans le dortoir, il pourrait en avoir plusieurs exemplaires. Il pourrait y avoir des romans justement peut-être d'horreur, d'aventure, des choses comme ça aussi. Hein, parce que...
Puis, je suis sûre que Dumbledore, il est aussi du genre à lire des romances. Hein,
Il les écrit,
hein, mais oui.
Il a un nom de plume.
En fait, Dumbledore et Célestina Moldubeck sont une seule et même personne.
Non, Dumbledore est l'auteur de Célestina Moldubeck.
Parolier.
Il est parolier. Et en parallèle, il écrit des romans de gare pour les elfes.
Il a ses bêta-lecteurs dans la cuisine.
Les mille vies du professeur Dumbledore.
On ne nous dit pas tout.
Et il est aussi mime et interprète pour les opéras des elfes de l'eau.
Des êtres de l'eau, tout à fait.
Il faut bien les occuper, c'est 150 ans de vie. Hein.
Oui, puis vu ce qu'il fout en tant que directeur, il a du temps. Je pense que ces bouquins sont plus intéressants que ceux de nos politiques.
Je pense que les politiques magiques écrivent aussi du coup des bouquins.
Et combien que Fudge a écrit son bouquin.
Les mémoires de Cornelius Fudge, je suis pas sûr que ça se vende très bien quand même. Hein.
Mais je suis sûr qu'il a tenté. Tu
penses que Fudge, il écrit de la dark romance qui se passe au fin fond dans les sous-sols du ministère.
Je pense qu'il écrit Le Temps des combats.
C'est ça. Non, je suis sûr qu'il a dû écrire. il a dû écrire son petit, sa petite auto.
Voilà, qui s'est vendu à 12 exemplaires.
Un truc très colonialiste sur la domination des sorciers sur les autres.
Non, un truc vraiment hyper chiant, quoi.
Sur comment il a mis fin à la première guerre.
Ouais, c'est ça.
Il a porté un coup d'arrêt.
Un truc très bureaucratique.
Non, oui, j'imagine un titre, tu vois, genre La voix qu'on n'a pas écoutée. Tu vois, un truc genre Le premier lanceur d'alerte, c'était moi. Cornelius Fudge, le lanceur d'alerte.
Mais est-ce que Ginny ne deviendrait pas autrice quand elle lâche on sait qu'elle devient journaliste. Est-ce qu'elle en profiterait pas aussi pour devenir pour écrire des choses un petit peu pendant sa grossesse
Moi, je l'imagine bien écrire des fictions sur le sport, des fictions autour du Quidditch.
Ou justement des livres un peu... Ça se vend bien aussi, des
d'analyse.
Livres sur... Pas d'analyse, mais de récits sportifs, quoi.
Ouais.
Genre l'histoire des harpies, les plus beaux matchs de l'équipe de je sais pas quoi, des trucs comme ça, quoi. Parce que ça, souvent, c'était justement c'est des journalistes sportifs qui ouais. écrivent ça. Donc, ça, peut, ça se vend bien, ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, bien se vendre dans le monde magique?
Est-ce que ça s'exporte? Comment on traduit, alors
Est-ce qu'il y a un sortilège pour traduire?
Est-ce qu'on est obligé de payer des gens pour faire ça, franchement?
Je pense que oui. Parce que vu à quel point les sorciers sont ouverts au monde, si tu les laisses juste jeter un sort dessus et se dire oui, on va relire vite fait.
pas être de la grande qualité.
Ouais. Je pense que c'est niveau Archie qui se balade en robe à fleurs sur le terrain de camping moldu.
Ah, mais écoute, il faut que ça respire, c'est pour ça. Mais,
mais traduction aussi, elle doit un peu respirer.
Bon, allez, je pense que là, on a vraiment bien avancé, même si c'est évidemment qu'une esquisse, qu'une ébauche de réflexion sur le sujet, mais... Mais bon, peut-être que ça décantera et que ça nous donnera des idées pour d'autres épisodes de Salut les sorciers ou peut-être d'Aspic.
Oui.
Et peut-être qu'on a donné des idées à des autrices et auteurs de fanfiction. Voilà.
Envoyez-nous vos fanfictions.
Peut-être que ça va vous donner des idées et puis que vous allez pouvoir partager ça avec nous derrière. Bon, et ben, en attendant... Merci de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres épisodes de Salut les sorciers, vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Et vous pouvez également suivre notre actualité et l'annonce des sorties sur les réseaux sociaux Studio Gazette, où vous retrouverez également nos autres émissions. Aspic, un jour, ça reviendra. En attendant, la squad Salut les sorciers.
Oui, et puis bah, Memento Vivere.
Memento Vivere aussi. Oui. Le rappel tout.
Fidèle au poste.
Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez et bien évidemment liker et laisser un commentaire pour faire découvrir ce podcast à des personnes qui ne le connaîtraient pas encore. Et puis, vous pouvez aussi faire un don sur le Tipeee de la Gazette du Sorcier. Et nous, bah, on se retrouve le mois prochain. Salut !
Salut !